je vous propose qu'on commence. Donc, merci d'être venu pour les auteurs qui sont soumis à la question pour la sélection du prix Imaginal des lycéens 2014. Donc, nous avons trois auteurs qui sont de la sélection ici. Donc, Christophe Nicolas, Lionel Béra et Jean-Luc Marcastel. Alors, je vais commencer par la personne qui est à ma gauche, à votre droite, donc, Lionel Béra. Donc, on s'était croisés ici même à Épinal l'an dernier pour la conférence « Publier un premier roman et trouver son éditeur ». Donc, c'était il y a un an exactement.
Oui, j'avais trouvé mon éditeur, effectivement, trois mois avant. Enfin, pas trouvé l'éditeur, mais le roman était sorti trois mois avant, plutôt.
Donc, c'est effectivement très, très récent. Et donc, un an plus tard, vous êtes dans la sélection du prix Imaginal des lycéens. Donc, c'est une belle progression. Dites-nous un peu ce qui s'est passé littérairement parlant pour vous depuis un an.
Alors, depuis un an, effectivement, j'ai surtout travaillé sur la promotion de ce roman-là. Donc, effectivement, il a déjà eu la chance d'être lu par de nombreux lycéens. Alors, je ne sais pas exactement si vous avez une idée du nombre de lycéens qui ont participé, mais c'est, je pense, plusieurs centaines.
On nous 400, a parlé de... Alors, lycéens, on nous a parlé de 21 lycées qui participaient au prix. Alors, je ne sais pas si c'est cette année ou... Voilà, mais a priori, c'est quand même énorme. Hein.
Donc, c'est déjà une grande satisfaction. Il a reçu aussi ce roman-là, Les Arcanes du Temps, a reçu un prix au salon de Lunéville. Ils appellent ça le prix de la médiathèque de l'Orangerie, voilà, au salon qui s'appelle Lune et Livre, en décembre 2013. Et entre-temps, donc, j'ai terminé mon deuxième roman qui est ici, qui sort aujourd'hui, qui s'appelle L'Auréole des Condamnés, qui est plutôt un thriller qui flirte avec le fantastique.
Donc on en parlera effectivement un peu tout à l'heure. Parlez-nous de votre temps, alors Les Arcanes du Temps, donc le livre qui était dans la sélection, s'il vous plaît.
Pardon ?
Le livre Les Arcanes du Temps, donc le livre de la sélection.
Oui, alors je pense que la plupart d'entre vous l'ont lu, hein, puisque ça faisait partie de la sélection, quoique tous les étudiants n'ont pas eu le temps de lire tous les livres. Alors c'est l'histoire de jeunes qui se rendent compte qu'on peut voyager dans le temps et qui sont eux-mêmes transférés dans le passé. Et... Qui se rendent compte que des tueurs à gages sont envoyés pour éliminer Jeanne d'Arc afin de modifier le cours de l'histoire. Et ils vont l'aider à survivre et ils vont se rendre compte aussi d'ailleurs que l'histoire est orientée, c'est-à-dire qu'on l'incite à agir pour qu'elle se comporte comme c'est écrit dans notre histoire, justement pour pas que celle-ci soit différente que celle que l'on connaît. Voilà. Donc c'est aussi un roman sur les paradoxes temporels, sur la complexité des voyages dans le temps, du risque de modifier le passé, ce genre de choses. Voilà.
Est-ce que le fait d'être dans la sélection, c'était une surprise pour vous ?
C'était une bonne surprise. C'est surtout une bonne nouvelle. Oui.
Et qu'est-ce que les Imaginales, le festival, et qu'est-ce que le prix Imaginal, qu'est-ce que ça représente en fait pour vous ?
Déjà, j'ai habité Épinal, donc déjà j'ai une certaine proximité avec cette ville, donc avec le prix, le salon, le festival des Imaginales également. Voilà, je suis toujours lorrain, j'habite à Nancy, donc c'est pas loin. J'ai pu rencontrer d'ailleurs beaucoup de lycéens. Donc voilà, j'ai déjà une attirance particulière pour cette raison-là, pour ce festival, puis aussi parce que tout simplement c'est le plus grand festival de l'imaginaire en France. Hein, faut dire ce qui est. Après, il y en a d'autres qui sont grands, comme les Utopias à Nantes, mais celui d'Épinal est le plus grand de France. Donc, faire partie des sélectionnés pour le prix des lycéens, effectivement, c'est une grande fierté dès le premier roman, un an après la sortie. Donc, effectivement, c'est une grande satisfaction.
Nous allons passer à Jean-Luc Marcastel, donc Un monde pour Clara, le livre qui était en sélection. Alors Jean-Luc Marcastel, votre parcours littéraire, vous, a commencé en 2004 avec la publication du Village au bout du monde, le tome 1 de Louis Le Gallou. Après, vous avez enchaîné donc 5 tomes, hein, pardon. Voilà. Ensuite, 3 tomes de Franquia publiés chez Mnemos. Pour l'instant, 2 tomes pour La Geste d'Alban. Donc moi, j'avais une question. C'est un one shot, c'est-à-dire un tome unique qui est Un monde pour Clara, qui a été sélectionné. Est-ce que vous en tirez une conclusion ?
C'est plus facile de sélectionner, je suppose, pour étudier avec des lycéens ou des collégiens. Il est quand même plus facile de partir sur un one shot, je pense, que de partir sur une série, puisque c'est toujours un peu frustrant aussi de ne pas avoir la fin. Et s'il faut acheter aussi, je pense, les 5 volumes du Gallou, par exemple, pour un collège ou pour chaque élève, c'est pas évident. Donc il y a peut-être ça aussi.
Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu alors de Un monde pour Clara, le livre de la sélection ?
Oui, donc Un monde pour Clara, c'est avant toute chose, pour moi, une réflexion sur, sur la dictature. Comment, avec de bonnes idées, finalement, mais dans de mauvaises mains, on peut arriver à des abominations. Où, donc, dans un futur proche, se met en place en France une dictature qui, sous couvert d'écologie, va installer un régime de fer. Et là, l'héroïne de mon livre, dont la sœur, donc l'héroïne s'appelle Diane et non pas Clara, donc dont la sœur, par contre Clara, est morte à 14 ans suite à un cancer dû à un accident nucléaire hein, qui a lieu en France, un peu comme ce qui s'est passé à Fukushima au Japon ou comme Tchernobyl. Eh bien, cette jeune fille va rencontrer un jeune homme, un ami qui a à peu près son âge à ce moment-là, dont la mère est en train de mourir pour les mêmes raisons, et qui lui, on va dire, traumatisé par la mort de sa mère et très en colère, va entrer dans un mouvement écologiste radical. Et donc, ils vont rester amis, elle va venir avec lui, mais elle va suivre plutôt qu'autre chose. Et plus tard, quand elle a 20 et quelques années, elle est étudiante à la Sorbonne, un jour, il y a une grande manifestation où l'entraîne son ami contre le nucléaire. Et donc, elle participe à cette manifestation, elle est filmée par les médias, et comme elle passe assez bien à la télé, qu'elle est assez jolie, on la fait parler, elle parle de sa sœur, elle parle du pourquoi elle est ici. Et donc, son image fait le tour des médias, et quelques minutes plus tard, le cortège s'arrête sur une grande avenue, et il y a un mur de CRS en face, il y a un grand silence qui se fait, et soudain un parpaing part d'un côté, il y a un tir de l'autre, et elle reçoit une balle anti-émeute dans la tête, elle va tomber dans le coma pendant 10 ans. Et donc, quand elle va se réveiller, tout a changé, elle apprend que le mouvement auquel elle appartenait a pris le pouvoir, a instauré partout les lois vertes, il s'appelle les enfants de Gaïa. Son ami est devenu un des dignitaires du pouvoir, il est commandeur des chevaliers de Gaïa, chargé de faire appliquer les lois vertes, etc. Et donc on lui dit, bah, écoute, voilà, on a fait de Paris, par exemple, Néo-Lutetia, la ville écologique parfaite, on a tout changé, on a arrêté le nucléaire, on a arrêté les centrales, on a fait le monde qu'on voulait faire, un monde propre, débarrassé des consuméristes, etc. Et on lui dit, mais par contre, il y a des gens, ben, c'est un peu difficile, il faut faire des sacrifices, il y a des gens, ils sont pas forcément disposés des fois à les faire, c'est un peu compliqué, il faut remotiver un peu les gens, on a besoin de toi parce que tu es une icône de la révolution, tu es devenu une icône de notre révolution, et donc on va l'amener d'une ville de France à l'autre pour remotiver un peu les gens. Et un jour, alors que l'hélicoptère qui la transporte traverse une tempête, hein, il s'écrase, elle va réussir à s'en sortir, mais elle va se retrouver, elle va se réfugier dans un petit village en plein cœur de la France, et là, elle va voir un peu l'envers de la médaille, se rendre compte qu'on a arrêté les centrales, mais peut-être à quel prix, il y a des gens qui sont peut-être en train de mourir de froid, qu'on a dit il y a trop d'humains sur Terre, il faut limiter les naissances, mais qui va décider, qui pourra avoir des enfants, selon quels critères, la richesse, l'intelligence, les livres par exemple, ça, c'est polluant, donc on n'a pas le droit de publier n'importe quoi en livre, il faut limiter, mais qui va choisir les bons livres et les mauvais livres? Et donc voilà, c'est là qu'elle se rend compte qu'en fait, ce qu'elle a aidé à mettre en place est une dictature de fer et que son ami y participe. Et que voilà, c'est tombé dans de mauvaises mains de gens qui ont voulu s'emparer du pouvoir, qui ont voulu utiliser une bonne idée, pour prendre le pouvoir, pour confisquer le pouvoir.
Et alors, en fait, en littérature ado, il y a souvent effectivement des thèmes liés à l'écologie, mais là, j'ai l'impression que vous avez pris quand même un tournant, que vous abordez pas les choses de la même façon que la plupart des auteurs.
Alors, c'est un peu, entre guillemets, c'est un peu un livre réaction, un livre coup de gueule, parce que justement, j'ai eu ces discours où j'ai entendu des fois des gens me dire, des gens très sérieux, me dire « la Terre, elle serait mieux sans les hommes ». Moi, ça me fait un peu frémir quand j'entends ce genre de discours. Où une fois, mon fils est revenu, mon fils qui avait 7 ans à l'époque, maintenant il est plus grand, mais il est revenu de l'école en pleurs, en larmes, en me disant « Papa, tu sais, c'est de notre faute si les ours polaires, ils disparaissent. » Et moi, tout à coup, je dis « Mais attends, on va s'arrêter 2 secondes, t'en as tué beaucoup, t'as des ours polaires ?» Il me dit « Bah non, je dis, t'en as vu beaucoup ?» Il dit « Bah non, j'en ai vu une fois dans une émission. » Je dis « Bah moi non plus. » J'avais vraiment l'impression, tout à coup, que à peine débarrassé du poids du péché originel qu'on nous a mis sur le dos pendant tellement longtemps, j'ai l'impression qu'on s'en colle un autre, et celui-là, voilà, vous êtes coupable. Du futur. Vous êtes coupables, vous, les enfants, qui en fait, ils arrivent, des enfants qui arrivent dans le monde, on va vous donner le poids voilà, d'une espèce de nouveau péché. Et donc, on sent venir derrière, de dire, voilà, il va falloir faire ci, il va falloir faire comme ça. Et je me dis, attention, il y a une dérive possible qui est inquiétante dans ce genre de discours. Voilà. De vouloir culpabiliser les gens. Voilà.
Alors moi j'ai été surprise de voir effectivement que le roman était publié chez Black Moon parce que, bon, peut-être à tort, mais j'avais un peu l'image d'une collection qui était assez romantique hein, quand même, et du coup je me suis dit voilà, comment est-ce que Un monde pour Clara a été publié chez Black Moon en fait?
Alors Black Moon est dirigé par Cécile Terwan, qui est quelqu'un qui fonctionne au coup de cœur. C'est-à-dire qu'on s'était rencontrés sur Le Dernier Hiver, qui pareil, est pas, alors il y a une histoire d'amour dedans, mais c'est pas un livre forcément glamour hein. Et en fait, c'est une fois qu'on s'était rencontrés sur un festival, je lui avais demandé, voilà, mais est-ce que vous prenez des textes? Elle m'a dit oui, mais je lui ai dit, vous avez quelque chose, des prix, une préférence? Elle m'a dit non, moi, ça me plaît, j'ai le coup de cœur pour le livre, je le prends. Et je pense que justement, elle voulait, entre autres, réussir à faire éclater un peu cette image de Black Moon, qui depuis Twilight, enfin, ils étaient enfermés dans une certaine image. Alors c'est vrai qu'on va me dire, c'est une héroïne encore dans le livre. Alors peut-être, oui, c'est une héroïne. Moi, il se trouve que cette histoire-là, je le voyais vue à travers les yeux d'une femme et d'une jeune fille. Et je pense que c'est pour moi, pour l'histoire, c'est important. Hein. Je peux pas raconter l'histoire, mais c'est important dans l'évolution du personnage. Et pour moi, en tant qu'auteur, en plus, c'était intéressant parce que c'était le premier livre, justement, où j'avais une histoire vue à travers une héroïne. Ça m'intéressait de me placer dans la tête d'une jeune fille. Voilà, ça me change du galou où là c'était un homme et c'est des problématiques plus masculines, peut-être pour le héros en tout cas, mais il y avait aussi une héroïne. Voilà, et donc non, je pense que Black Moon actuellement essaie justement d'exposer un petit peu ce carcan. Ils essayent de faire autre chose, ce qui fait que voilà, ils ont pris ces deux livres. Et moi, quand je lui ai parlé du projet, je lui ai dit voilà, écoute, moi j'ai un livre coup de gueule en quelque sorte, pour les raisons que je viens d'évoquer. Elle m'a dit écoute, ça m'intéresse, envoie-moi le scénario. Et donc j'ai envoyé.
Et qu'est-ce que les Imaginales alors représentent pour vous? Et qu'est-ce que cette sélection représente pour vous?
Bah, les Imaginales, c'est la grand-messe. Non, je dirais même c'est plutôt la grande fête d'ailleurs de l'imaginaire. Je le disais tout à l'heure là pour une émission télé. Enfin, je sais pas, moi c'est que du bonheur pendant 4 jours. J'adore venir. Et puis la sélection, c'est bien parce que justement on rencontre des élèves, on échange. Après ça, ils viennent. Certains ont aimé, d'autres moins. Voilà, certains ça les touche. Donc c'est vraiment un grand moment d'échange et d'émotion aussi.
Merci, Christophe Nicolas. Donc projet Harmonie, je le vois pas. Ah oui, d'accord, il est là. Donc c'est votre second roman publié aux éditions Durier après un autre paru en 2010. Parlez-nous un petit peu de votre roman.
Donc c'est un thriller. Alors bon, la dernière fois que j'ai parlé dans un micro à Épinal, c'était pour un concert. Les gens ont souri et je leur ai dit, avant de vous moquer de moi, dites-vous que chez moi c'est vous qui avez un accent. Et très très justement, une personne du public a répondu ouais, mais là t'es chez nous. J'y ai dit pas faux. Et bon, ça s'est bien passé. Donc ceci dit, donc Projet Harmonie, c'est un thriller que j'ai voulu comme un film de Bruce Willis de la grande époque, c'est-à-dire avec beaucoup d'action. Bon, peut-être le fond en plus, même si je ne veux pas critiquer les Bruce Willis. Hein. Et c'est-à-dire qu'on va de rebondissement en rebondissement. Il n'y a pas beaucoup de pages, il y en a, mais c'est pas un roman fleuve. Donc c'est très resserré. Tout ce qui est à côté, c'est évoqué donc pour enrichir l'atmosphère, mais ce n'est pas développé pour ne pas alourdir justement le récit. Alors l'histoire, c'est un journaliste un peu dissident qui se retrouve mis à la porte de son journal parce qu'il a écrit un essai dénonçant justement les dérives des médias de notre époque, à savoir... que l'information n'est pas forcément le but recherché. Il faut vendre du papier, quitte à parler tous de la même chose, quitte à pas trop contredire la publicité qui est à côté. Donc il a dénoncé tout ça, et comme pour bien faire, il a pris pour exemple le journal dans lequel il travaillait. Fort logiquement, il s'est fait renvoyer. Donc on le retrouve sur un débat télévisé d'une chaîne du câble, pour défendre son livre. Donc c'est un débat sur le journalisme, et au milieu du débat il tombe dans les pommes et il se réveille à l'hôpital le lendemain, la tête pleine de souvenirs qu'il ne se souvient pas avoir vécu, quoi. Et grâce à ces souvenirs, que bon, au fil du roman on apprend d'où ils viennent, je préfère pas le dire, dans son idée, il est très complotiste, il est très anticapitaliste, il voit des complots de la CIA partout. Et les souvenirs qui ne sont pas les siens, donc, l'incitent à penser que peut-être le ministre de l'Intérieur, donc ça se passe peut-être en France, il n'y a pas de nom connu de personnage, il n'y a pas de nom de ville, il n'y a pas de nom de pays. Bon, c'est en France. Ça se passe dans les années 90. Donc il y a des magnétoscopes, il y a... Alors ça me permet de prévoir le futur, c'est-à-dire maintenant. Notamment lors du débat, le journaliste s'écrit « Mais vous allez voir que dans quelques années, les journaux seront gratuits, distribués à la sortie du métro. » Alors tout le monde se fout de lui. Donc ça, c'est bien pratique. J'ai perdu le fil.
C'était l'histoire, en fait.
Ah oui, donc du coup, donc ces souvenirs le mettent sur la piste d'un complot, le ministre de l'Intérieur, qui ferait des trucs pas très jolis, et ça le conforte, comme il a tendance à voir le complot partout, il voit un complot, c'est pas le bon, mais celui, le vrai complot est encore pire que ce qu'il imagine. Rebondissement, course-poursuite, roulez-boulez.
Et mystère en tout genre. Ah, et oui. Est-ce que la sélection était une surprise, alors, pour vous ? La sélection pour le prix ?
Une très bonne surprise, ça m'a permis d'être invité. J'habite loin. Et j'étais déjà venu à mes frais, aux frais de mon éditeur, qui est un petit éditeur, donc à mes frais, plus ou moins. Et c'est pas pareil. Là, je vis la vie de château, là.
Profitez-en. Sans révéler trop de votre livre, l'harmonie dont il est question dans le titre, est-ce que ça a à voir avec la musique, étant donné que vous êtes aussi professionnel de la musique ?
Non.
D'accord.
Non. Ce qui me plaisait, c'était le projet Harmonie, c'est le fameux scandale que le journaliste est amené à dévoiler. Et on se rend compte que... Alors, c'est une tendance de notre temps aussi, comme dans 1984, où le ministère de l'amour, c'était le ministère de la guerre. Et on le voit en ce moment, hein, on nous explique que le mal, c'est le bien, qu'il y a quand même une... Les mots ne veulent plus dire ce qu'ils voulaient dire à l'origine, quoi. Donc, projet Harmonie, pour dire que ce qu'ils préparent, c'est pas du tout l'harmonie, quoi. C'est l'harmonie d'un certain point de vue. Certaines personnes peuvent trouver le monde... j'en dis trop. Certaines personnes que j'aimerais pas forcément fréquenter peuvent espérer ce qui se prépare dans le livre. Mais justement, ils ont choisi Harmonie pour masquer la saloperie de la chose, quoi.
Un peu comme dans Un monde pour Clara, alors, hein, où normalement c'est bien et en fait c'est pas bien.
Oui, à part que moi, je pense que j'aurais pas écrit le même livre que Jean-Luc.
Entamons un débat. Plus sérieusement, dans un autre, donc votre roman précédent, vous abordiez la question de l'identité, un homme qui est pris pour un autre, une autre personne. Et dans Projet Harmonie, en fait, votre héros a des souvenirs qui ne sont pas les siens. Donc j'ai l'impression qu'il y a le thème du double qui revient de roman en roman. Est-ce que c'est un thème important pour vous ?
Alors, la parenthèse commerciale, un autre était épuisé depuis 2 ans et les nouveaux exemplaires arrivent demain. Donc, il va falloir revenir, malheureusement. Mais demain, ils seront à ma place. Donc, un autre... Alors oui, je m'en suis rendu compte une interview, on me faisait parler de mes 2 livres et il y a quand même, c'est vrai, des fois je parlais de l'un, on aurait pu croire que je parlais de l'autre. C'est un jeu de mots. Donc oui. Alors je vais avoir 40 ans la semaine prochaine. Donc peut-être que je me cherche, je sais pas. Mais ça m'est... Alors plus que l'identité, c'est peut-être est-ce qu'on est la somme de ses souvenirs ? Est-ce qu'on a vraiment vécu ce qu'on se souvient avoir vécu ? Enfin, c'est des questions que je me pose en général, quoi. Donc, je suis pas sûr d'être là.
Votre roman donc emprunte au thriller, comme le dernier roman donc de Lionel Béra, L'Auréole des condamnés. Parlez-nous un peu de ce genre. Quels étaient les codes du genre, pardon, que vous vouliez reprendre et ceux que vous vouliez rafraîchir dans le thriller ?
Oh, rafraîchir, j'ai pas cette ambition, mais moi, ce qui m'intéressait dans le thriller, c'est le côté. Alors, j'ai pas l'équivalent français de page turner, mm-hmm. qui est on tourne la page, on tourne la page, on tourne la page. Alors je sais pas si c'est l'idée que je me fais du lectorat ou si c'est moi mon approche des livres, mais quand je lis, c'est lent, c'est pénible, il faut certains livres. Et il y a toujours des passages où je me dis, ça quand même, c'était pas la peine. Donc l'idée, c'est de faire un truc très rythmé. Et de... c'est la peur de lasser. Donc à chaque fin de chapitre court, le petit appel pour que le lecteur... Et le meilleur compliment que je reçois, qui m'arrive de recevoir, c'est « je l'ai lu d'une traite ». Alors quand même, c'est...
Lionel Vera.
Alors je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il vient de dire. J'aurais pu le dire à sa place. Les Arcanes du Temps est aussi un thriller. Hein. C'est à la fois donc, des aventures historiques réelles, donc de la réalité historique. C'est à la fois donc de la science-fiction parce qu'il y a du voyage dans le temps, mais c'est aussi un thriller. Et c'est pareil. Hein, j'ai fait des sous-chapitres courts avec des cliffhangers pour utiliser un autre mot anglais, des cliffhangers à presque toutes les fins de ces sous-chapitres. Donc il y a des cliffhangers tous les cinq pages. Et en fin de compte, c'est ça qui m'a plu. C'est ce côté thriller et la fin du roman est un peu plus thriller, on va dire que le début et le milieu. Et je me suis rendu compte que c'est ce que je préférais écrire. C'est vraiment plutôt que de raconter, je veux dire, une aventure qui se passe de manière linéaire. C'est ce qui me plaît, ouais, c'est d'écrire des courts chapitres avec des rebondissements et genre de choses. Et c'est le côté thriller qui m'a le plus, qui fait que dans le deuxième roman, l'Auréole des condamnés, j'ai accentué ce point-là. Et j'ai il y a un petit peu de fantastique. Il y en a ou il y en a pas. D'ailleurs, je peux pas vous le dire puisque dans L'Auréole des condamnés, il y a donc c'est un policier, hein, c'est un thriller contemporain, donc avec des meurtres, des suspects, etc. Et parmi les suspects, il y en a un qui prétend avoir le don de percevoir la mort des gens avant qu'elle ne se produise. Donc quelques jours avant qu'elle ne se produise. C'est pour ça que ça s'appelle L'Auréole des condamnés parce que il perçoit une sorte de halo autour du visage des gens. Quelques jours avant qu'ils meurent, et donc c'est pour ça qu'ils sont condamnés. Donc L'Auréole des condamnés, le titre vient de là. Bon, après, c'est de savoir s'il dit la vérité ou pas. Donc je peux vous dire si c'est du fantastique ou pas, ça on le sait qu'à la fin du livre. Mais en tout cas, c'est un thriller où le fantastique flirte, on va dire, pendant une bonne moitié. Mais c'est avant tout un thriller avec, effectivement, cette volonté de que ça aille très vite. Ça va beaucoup plus vite que Les Arcanes du Temps encore. Hein. Le livre est d'ailleurs un peu plus court, mais surtout, il y a moins de descriptions encore. C'est les rebondissements, les coups de théâtre qui sont privilégiés avant tout.
D'accord. Est-ce que vous vouliez réagir sur le thriller ou pas?
Non, mais sur ce qui est marrant, c'est le cliffhanger, parce que moi, à chaque fois, mes livres, je fonctionne de la même manière. Je termine chaque chapitre par une accroche. J'ai ce côté feuilleton. C'est plutôt feuilletonesque, on va dire. Après, c'est ça. J'ai pris les leçons de Dumas, de tous les feuilletonistes. Moi, j'adore ça, le fait que, hop, je construis chaque chapitre presque comme une entité séparée, comme mini-nouvelle, finalement.
Ça dépend de la taille du chapitre, en fait.
Ça dépend de la taille du chapitre. Donc... Mais par contre, il faut qu'à chaque fin de chapitre, le lecteur n'ait qu'une envie, c'est d'attraper.
Du coup, c'est plus feuilleton que thriller. Et plus un chapitre est long, c'est ma définition.
Ça dépend, ouais. C'est...
Oui, je veux dire qu'un point commun aussi entre les deux romans, c'est le fait que non seulement les chapitres sont courts et ils sont à chaque fois focalisés plutôt sur un personnage. C'est-à-dire que le personnage change de chapitre en chapitre. Donc quand je termine le cliffhanger, les lecteurs n'ont pas la réponse du cliffhanger dans le chapitre suivant. Il faut qu'ils attendent deux ou trois, voire plus de chapitres.
Pareil.
Et ça, le fonctionnement est le même dans les deux livres.
Vous aimez frustrer votre lecteur.
J'aime frustrer mon lecteur, mais c'est ce qui lui donne l'intérêt du jeu. C'est un jeu de manière... Hein. Les deux sont des jeux.
C'est Martine qui est un grand habitué de la chose, puisque le Trône de Fer est construit exactement de cette manière-là.
Martine à la plage, Martine fait du vélo.
Georges RR.
Georges RR, qui fait ça dans le Trône de Fer, systématiquement, et les lecteurs sont...
J'ai pas lu beaucoup de Martine et j'avais pas le côté cliffhanger.
Non, d'accord. Ah oui,
alors, en fait, j'avais une question, moi, sur le temps, justement, parce que deux des romans présents se tournent vers l'anticipation, donc Un monde pour Clara et Projet Harmonie, tandis que le troisième est un peu tourné quand même vers le passé, de façon assez importante. La chronologie, le passage du temps, comment vous travaillez ça dans vos textes, alors, pour que ça soit vraiment, vraiment resserré, vraiment...
Ah, pour Projet Harmonie, j'ai galéré, mais... justement, pour pas révéler le pourquoi j'ai galéré, mais... Il y a plusieurs fils d'histoire qui s'entrecroisent et au bout d'un moment, à la moitié du roman, on se rend compte que je peux pas le dire, mais que j'ai galéré, quoi. C'était terrible parce que il y a des trucs qui se sont passés avant, après, et une façon de, quand on le lit d'une traite, le cerveau du lecteur pense que c'est chronologiquement, ça se suit. Le moment où il se rend compte que peut-être pas. Il y a un chapitre notamment que j'ai fait très court exprès où tout le monde me dit ah celui-là je l'ai relu deux fois. Enfin une phrase en tête de chapitre qui ah tiens on m'aurait menti. Et oui.
Est-ce que vous voulez réagir sur la chronologie ou le travail sur le temps dans le roman ?
Pas spécifiquement sur celui-là, mais enfin bon, il y a toujours des moments où on accélère, où il y a des ellipses, où on passe volontairement sur certaines choses. Sur le dernier que je suis en train d'écrire, enfin que je suis en train de faire sur Prairie, par exemple, le dernier qui vient de paraître là. Et là, je suis en train de retravailler sur le second tome. Là, pareil, il a fallu que je sois très très attentif puisque ça se passe sur une journée, sur 16 heures. Et en fait, on est dans un peuple où ils ne perçoivent pas le temps de la même manière. Et donc le déroulement de la journée va conditionner enfin tout le déroulement de l'aventure et le héros en plus à 16 heures après il meurt. Donc là aussi c'est hyper important. Donc il fallait que je voie à chaque fois, à chaque horaire à comment ça correspondait. On a un compte à rebours tout le temps qu'il faut tout le temps.
C'est 24 heures chrono quoi.
Voilà. Et donc c'est vrai que c'est il faut alors, quelle heure il est par rapport à son temps à lui, c'est terrible.
C'est pas un métier facile.
C'est terrible.
Alors moi concernant le temps, c'est qu'il y a un paradoxe, c'est que c'est un roman qui est classé science-fiction anticipation. Mais qui se passe au Moyen-Âge. Donc c'est à la fois tourné vers le futur et surtout vers le passé en réalité. C'est de la science-fiction tournée vers le passé plutôt. Donc c'est bien sûr donc la difficulté c'était les paradoxes temporels quoi, puisqu'il y a des scènes qui se passent à notre époque, des scènes qui se passent donc au Moyen-Âge avec plusieurs époques du Moyen-Âge en plus. Donc oui, il faut aussi suivre le cheminement de tous les personnages et pas créer de paradoxes temporels ou de comment. Il y a aussi des moments où j'ai galéré comme il dit. Où je me suis trouvé dans des situations où je pensais que le scénario était cuit, quoi. Parce que je m'étais rendu compte que voilà, je tombais sur un paradoxe. J'avais mis mes personnages dans une situation où ils pouvaient pas s'en sortir. Et les seules manières où ils pouvaient s'en sortir, bah, ça remettait en cause tout le roman. Et ça fait peur, quoi. Quand on arrive à 200, 300 pages et qu'on se rend compte de ça, on se dit, oula. Mais bon. On arrive à trouver des solutions, en réfléchissant, en se creusant la tête. En modifiant un petit peu, parce que c'est ça, nous, en tant qu'écrivain, on a la chance de pouvoir tricher. C'est-à-dire, c'est vraiment, il y a une ou deux choses qui nous gênent au début de roman. Voilà, bon, on peut toujours les modifier. Mais ce qu'il faut, c'est s'en rendre compte avant de l'envoyer à l'éditeur.
Concernant vos projets, alors, vos projets d'écriture, je vois que Prairie va sortir, enfin, il est sorti, mais il est annoncé dans Electre en juin.
Il est officiellement il est déjà... pas sorti, voilà. Mais il est sorti en avant-première sur le salon.
D'accord. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu et...
Oui, alors Prairie, ça part du principe qu'il y a 20 ans de ça, il y a un laboratoire qui a disparu dans le sud de la France, un laboratoire de recherche, ainsi que le village qui se trouvait à côté. Personne ne sait ce qu'ils sont devenus. La zone a été mise en quarantaine et personne n'a eu le droit de s'en approcher. En fait, il y a des gens qui savent. Et de nos jours, donc actuellement, on envoie un jeune soldat avec un hélicoptère hyper moderne au-dessus de cette zone-là et on va le miniaturiser. Parce qu'en fait, ce laboratoire travaillait sur la miniaturisation. Et en fait, il y a eu un incident. Donc le laboratoire a disparu, il a été miniaturisé, le village aussi. Donc on sait que quelque part dans ce labo, il y a le protocole qui permet, la formule, si on veut, mathématique, qui permet de miniaturiser et de réagrandir. On a réussi à retrouver celle qui permet de miniaturiser et jamais l'autre. Et donc le héros va être envoyé, miniaturisé, il va aller dans ce labo, il va récupérer l'autre formule, la récupérer, la réimplanter dans son véhicule et réagrandir. Parce qu'autrement, il va décompresser au bout de 16 heures, mais dans le désordre. Donc il a tout intérêt. Alors ce qu'il va faire, c'est que voilà, il va aller au-dessus du champ, son hélicoptère va être miniaturisé, seulement ils vont être attaqués par une libellule, lui il va tomber. Et en fait, dans ce champ, il va découvrir que les habitants du village ont survécu. Ils ont survécu, ils font maintenant la taille d'une fourmi rousse à peu près, ils vivent 2 ans, ces personnes-là. Le temps pour eux ne s'écoule pas du tout, en quelque sorte, de la même manière. Ils ont un métabolisme beaucoup plus rapide. Et par contre, ils ont fondé une société au milieu des insectes, qui vivent en état de siège au milieu des insectes, et donc qui est conditionnée par leur environnement, et une société très patriarcale, où les femmes sont maintenues au milieu de la cité, sont réduites un peu au rôle de reproductrice, et lui, il va arriver là-dedans, il va être un peu le grain de sable qui va faire gripper tout le mécanisme. Il va tomber, par exemple, amoureux d'une jeune femme dont le père, qui fait partie de la caste des chasseurs, l'a toujours déguisé en garçon pour éviter qu'elle subisse le lot commun. Et donc, il va commencer, voilà, ils ont une religion qui est de la repentance, parce qu'en fait, ils se disent, voilà, si on a été miniaturisé, c'est qu'il y en a qui ont fauté, enfin, voilà. Donc toute une société microscopique, et donc bon, ils ont des épées par exemple faites avec des mandibules d'insectes, des armures faites de chitine, etc. Donc c'est un autre monde, et puis les insectes c'est des créatures extraordinaires, comme je disais, ils sont pires que tous les aliens du cinéma, quoi. C'est la plus terrible des jungles là-dedans. Donc, voilà. Et pour eux, le muret qui entoure le champ, qui entoure Prairie, c'est le bord du monde. Au-delà, il n'y a plus rien. Les prêtres leur disent, au-delà, il n'y a plus rien, c'est le muret du bord du monde, gardé par les grands dragons, c'est les arts, en fait. Et donc voilà, c'est une grande aventure dans un tout petit monde, dans la jungle qui se trouve à nos pieds.
Merci. Lionel Berra, des projets avec un gérondif et qui commence par un A, peut-être.
Je vois pas. Donc le projet, oui, déjà, ça va être donc la sortie aujourd'hui de mon deuxième roman, hein, qui a été avant la sortie, qui a été avancée exprès pour les Imaginales. Donc voilà, l'Auréole des condamnés qui vient de sortir. Sinon, je suis en train d'écrire un troisième roman. J'en suis environ à la moitié, donc il est pas prêt de sortir. où il s'agit d'un avocat qui reçoit d'abord une lettre de menace en disant voilà, je vais m'en prendre à tes proches, à ta famille. Bon, il pense que c'est un de ses anciens clients. Et puis effectivement, c'est son chien qui se fait égorger, ça commence par ça. Ensuite, c'est sa maîtresse qui se fait violer et tuer. Ensuite, c'est sa fille qui se fait agresser. Et le problème, c'est que sa maîtresse, avant de mourir ainsi que sa fille, disent l'avoir reconnu lui. Or lui, il sait très bien que c'est pas lui. Et gros, j'en suis à là. Donc je vous en dirai pas plus, comme il est en cours d'écriture.
On va s'amuser.
Donc c'est aussi un thriller un peu fantastique.
Moi, je suis sur le point de terminer mon troisième roman. Ça commence comme celui de Jean-Luc. Donc pour la première fois de ma carrière, je cite le nom des lieux. Donc ça va se passer dans les Cévennes. J'en suis. C'est un petit village des Cévennes, donc du jour un matin, tous les habitants du village ont disparu, mais le village est encore
là. Tu sais que ça se déroule dans les Cévennes, ça se déroule à côté d'Anduze.
Ah merde.
Moi, je suis prof de droit, s'il y a quelqu'un qui veut des conseils pour faire un recours contre un plagiat, je prends pas cher.
Non, ça s'arrête là. Moi, ça se passe en dessus de porte.
D'accord. On va vers m'y aller.
J'allais me baigner là quand j'étais petit.
Et moi aussi.
Tu es d'où?
Moi, je suis d'Aurillac, mais j'allais passer mes vacances là-bas.
Bon, très bien, on discutera plus tard. Donc, les habitants du village disparaissent. Il se trouve qu'il y a une dame qui avait rendez-vous avec son mari qui venait aider une copine à déménager. Donc, quand elle arrive, son mari n'est plus là, sa copine non plus. Donc elle est un peu désemparée, il y a des enquêtes, il retrouve personne. Ça dure un certain temps, les habitants du village, on les retrouve à un endroit mystérieux, ils ne savent pas trop où ils sont, ça dure un jour ou deux, et quand ils se réveillent dans le village, ça, tout a changé. Il y a sur les portes, il y a des avis d'évacuation. Mais ouais, non, c'est louche, hein. Qui sont collés et donc ils se demandent qu'est-ce qui s'est passé parce que bon, ça a duré que deux jours. Ils croisent un camion de l'armée qui leur tire dessus. Pour la première fois, j'ai pas fait un thriller, c'est-à-dire que je voulais quelque chose de. Et donc j'ai fini le premier jet, je l'ai relu et je suis en train de le réécrire parce que finalement. J'arrive mieux à faire le. Je vais le rebooster. Ouais. Voilà. Donc, du coup, c'était prévu pour être prêt et ça sera pour l'an prochain. Quoi. Parce que j'écris très lentement.
Ce n'est que partie remise, alors.
Oui. J'aimerais que ça sorte pour me faire imiter l'an prochain. Je vais y veiller.
Alors, avant de passer aux questions du public.
Si, j'ai un autre livre qui sort en septembre. Qui va s'appeler qui s'appelle Le Simulacre. Et alors là, par contre, c'est tout à fait autre chose. En deux mots, c'est à mi-chemin entre Alexandre Dumas et George Lucas. Avec le personnage de D'Artagnan, avec une Versailles céleste au-dessus de la Terre, qui est en train d'être construite, une espèce de plateforme orbitale, dans un 18e siècle alternatif, où le simulacre de D'Artagnan, c'est-à-dire en quelque sorte le clone de D'Artagnan, va devoir combattre le cardinal de Richelieu, toute une intrigue dans une espèce de France parallèle où il y a des diligences volantes, des pistolets à lumière, enfin ce genre de choses.
Ce sera un peu du steampunk, un peu du...
Alors, je dépose le brevet, je vais appeler ça du Versailles punk.
Merci. Donc je voulais juste vous, avant de passer la parole au public, aux questions du public, je voulais juste vous demander. Donc c'est un prix ado des lycéens. Votre jeune public. Alors comment vous travaillez? Est-ce que vous le rencontrez? Est-ce que vous communiquez avec lui sur Facebook? Est-ce que vous êtes dans les lycées? Enfin, comment ça se passe un peu? Donc, comment ça s'est passé?
Ben, un peu tout ça. Moi, j'ai eu la chance d'aller dans 4 lycées, je crois. Donc peut-être que je reconnais d'ailleurs. Puis sur Facebook, oui, j'ai eu de suite des lycéens qui m'ont demandé comme ami Facebook après le passage dans le lycée. Oui, c'est vrai. Surtout de Poincaré, là, j'ai un groupe de je sais pas, presque une dizaine de filles qui se sont donné le mot. Mais c'est bien, c'est très sympa. Donc effectivement, ça permet de, on parle du roman, voilà. Donc c'est sympa.
Alors moi, j'ai rendez-vous avec vous peut-être tout à l'heure à 13h au Lavoir Théâtre. Donc si vous n'en êtes pas, je pense que c'est ouvert à tout le monde. Sinon, non, j'ai pas beaucoup l'occasion de rencontrer ni les lecteurs ni les jeunes lecteurs. J'ai pas l'impression d'écrire pour la jeunesse en particulier. J'aime avoir des retours... Surtout que les gens qui viennent, généralement, c'est pas pour vous cracher dessus, quoi. Donc,
heureusement.
Il y en a. Mais.
J'ai déjà vu ça.
Oui, oui.
Pas moi, heureusement, mais j'ai vu un collègue une fois, une vieille dame qui traverse.
Ah, ça coûte cher les livres.
Qui va se planter devant le gars et qui lui dit : c'est une honte, j'ai pas du tout aimé votre livre. D'abord, c'est bourré de fautes d'orthographe. Ah. Le type qui stickait fit derrière ses bouquins. L'horreur. L'horreur.
Donc, à 13h, si vous venez pour m'insulter, vous serez bien reçu. Je peux me battre. Hein. Donc voilà.
Pas
donc
avec
c'est...
des mineurs.
Ouais, non. J'enverrai Lionel, qui apparemment a le contact facile avec les moins de 18 ans.
Qu'est-ce que tu sous-entends?
J'ai rien dit. Donc voilà, donc je suis ravi de rencontrer les gens, mais j'ai pas l'occasion de le faire souvent.
D'accord. Et Jean-Luc, vous qui avez quand même beaucoup plus du coup d'expérience et notamment d'expérience de littérature jeunesse.
Je fais pas mal d'interventions dans des collèges, dans des lycées, où m'arrivait des fois de faire des écoles. C'est vrai que c'est très agréable parce que d'abord, peut-être moins en lycée, mais en tout cas en collège et en tout cas certainement dans des écoles, c'est quand on a des réflexions et des réactions, c'est cash. C'est-à-dire que les gamins, ils prennent pas de gants, quoi. Si ça leur a plu, c'est génial. Hein. Et si ça leur a pas plu, par contre, non, ça m'a pas plu tellement. C'est vraiment pourquoi? Bah là, c'est un peu, ouais, c'est un peu chiant. Là, voilà. Bon, c'est voilà. Non, et puis c'est merveilleux justement d'aller à la rencontre justement de ces lecteurs, de voir les réactions et de voir des fois ce qu'ils ont eux vu ou trouvé dans les livres qu'on ne soupçonnait pas nous forcément. Voilà, parce que nous, on veut y mettre certaines choses, on pense y mettre une certaine réflexion derrière, et des fois, on se rend compte que, ben, en lisant le livre, ils ont vu des choses que soit nous, on n'avait pas vues, ou qu'on pensait pas, voilà, ou qu'on a amené des réflexions qu'on n'avait pas forcément vu venir ou pensé susciter. Mais c'est toujours passionnant, en tout cas, voilà. Puis c'est un moment d'échange, un moment de convivialité, d'amitié, puis comme tu dis, généralement, voilà, on a le bon côté. Moi, j'ai été enseignant dans une vie antérieure, tu vois. Et comme je dis maintenant, c'est merveilleux, j'ai plus que le bon côté des choses. Voilà. Plus de copies et puis des gens qui viennent librement, d'habitude. Ils ne sont pas obligés.
Ils sont contents de venir.
Ils sont contents de venir, en plus. C'est merveilleux.
Alors, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Il n'y en a pas.
On a arrêté de manger les lycéens, c'est promis.
C'est lui, l'ancien prof. Hein.
Oui. Très, très fort.
Je peux pas dire non. Je peux pas dire non, mais j'essaye de me réfréner. Je peux pas m'en empêcher. Par le choix de l'histoire, par le choix des personnages, par le choix de ce qui se passe, par le choix de. Ce que je dis, j'aurais pas pu écrire le livre de Jean-Luc, même en me forçant à un. Si animaux des offenders. Parce que j'écris très lentement. Par exemple, ce que vous lisez, un chapitre, ça vous prend peut-être 2-3 minutes à le lire. Moi, il m'a fallu une semaine, donc forcément, c'est très... y a beaucoup d'idées un peu de place, et forcément ce sont mes idées. Alors j'arrive très bien à me mettre dans la peau de personnages que j'aimerais pas rencontrer, mais là aussi c'est fait, j'imagine, hein, mais sans, j'essaye d'être le plus honnête possible avec les méchants, quoi, que je vais appeler les méchants, pour que j'essaye de penser comme eux, de me mettre dans la... Mais c'est fait de telle manière qu'on peut pas les aimer, donc le message est là aussi. Selon les personnages, qui on aime, qui on n'aime pas, j'ai gagné mon coup, entre guillemets. Quoi. Je peux pas m'en cacher, non. Pardon. Allez.
Ça, par contre, c'est comme quand on est prof. Hein. On demande des questions, il n'y a personne qui lève le doigt dans la salle de
c'est
classe.
C'est vrai, il n'y a personne qui veut, non. Il n'y a personne qui ose.
Un adulte.
Finalement, hein, on n'est pas trop cuisiné. Hein.
Ah oui, allez-y.
Moi encore, hein.
Non, chacun.
Tout le monde. Hein.
À 9 ans. Non, c'est vrai. Ah ouais, 9 ans. Ouais. Comme je disais souvent, j'ai commencé à lire des livres. Moi, quand j'avais 9 ans, mon père qui en avait marre, je lise des BD, m'a dit un jour, tiens, prends ce bouquin, c'est un livre sans images. Bon, je l'ai lu. Au début, hein, une page, hein, deux pages. Bon, j'ai trouvé ça génial. Ça s'appelait Pour Patrie l'espace de Francis Carsac. Bon, c'est un livre de SF. Donc j'en ai lu sur la lancée, j'en ai dévoré après. Et au bout de quelques mois, je me suis dit, mais c'est dommage, c'est jamais moi le héros des histoires. Donc j'avais envie d'être le héros de l'histoire. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris un stylo, une feuille, et j'ai commencé à écrire des histoires où c'était moi le héros avec mes copains. Et ça a commencé comme ça. Et petit à petit, j'ai continué. Et après, je lisais ces histoires aux gens que je mettais dedans, quoi, à mes amis. Et comme ça leur plaisait, ça m'a donné envie de continuer, quoi, à chaque fois. Puis eux, c'était le rendez-vous. Après, tous les 6 mois, par exemple, je voyais mes cousins tous les 6 mois. J'en avais dit, alors, tu nous as écrit quoi comme aventure? Et hop, je leur lisais l'histoire. Puis ça a devenu des petites histoires, puis des grosses histoires. Et puis un jour, j'ai fini par me cacher derrière des héros, quoi, parce que bon, c'est bien de se mettre en scène, mais ça va un moment.
Ça parlait de toi.
Au départ, ouais, en fait, au début, c'était des histoires, on se mettait en scène. Alors, il y avait des aventures extraordinaires avec des monstres, des robots, enfin, tout ce que tu veux, quoi, tu vois. Mais après, par contre, on continue de parler de nous. De toute façon, on se met dans nos héros, comme tu disais, qui rejoint la question de tout à l'heure, c'est qu'on peut pas ne pas mettre un message, même si on le voulait pas. Non. Il y aurait de toute façon un message dans l'histoire, puisque nos héros, ils vont faire ce que nous on aimerait faire, et nos salauds, ils feront ce qu'on n'aime pas faire. Donc, de toute manière, quelque part, on a un parti pris.
Oui, non, tu peux pas te cacher. Moi, c'est un peu pareil. Moi, quand j'étais petit, plutôt, je lisais de la BD, donc j'ai commencé à dessiner de la BD. Après, j'ai découvert la musique, je me suis mis à la guitare. Et en fait, j'ai découvert la lecture sur le tard, je devais avoir 17 ans. Et c'était Stephen King. Et je ne me rappelle plus, je crois que c'était Cimetière. Et j'ai lu ça. Alors, c'est tout le talent de Stephen King, à mon avis, c'est qu'il donne l'impression que c'est facile. Parce que c'est raconté sur l'air de... Je sais pas comment il se débrouille.
Il est doué, hein, pour
et,
ça.
Ouais. Et du coup, je me suis dit, ah putain, c'est super, ça a l'air facile, je vais m'y mettre, quoi. Alors c'est pas facile, hein. Donc j'ai commencé à écrire des nouvelles, mais est-ce que je me considère comme un écrivain? Ça, j'en suis même pas sûr, quoi. J'écris des livres, oui. Est-ce que ça suffit?
Justement, si on a bien fait notre boulot, le lecteur, il a l'impression que c'est facile. C'est beaucoup de travail pour donner l'impression que c'est facile.
Eh bien alors. Ouais. Donc je peux pas te demander si tu as eu l'impression que c'était facile à écrire. J'ai galéré, je répète. On m'a donné un mal fou celui-là.
Moi, c'est pareil, j'ai dû commencer à penser à ça au collège. Lorsqu'au collège, on a des dissertations où on doit terminer l'histoire, j'avais mes copains qui rendaient difficilement une demi-page. Moi, je rendais 5 ou 6 copies doubles. Au grand dam de ma prof qui, à la fin, me mettait 18 sans les lire. Hein, faut pas, voilà. Donc l'idée d'écrire un bouquin, je l'ai depuis cet âge-là, depuis le collège, et puis après, il faut le temps, le courage de se lancer dans un bouquin de 400 pages, c'est-à-dire un an de boulot, sans être sûr de trouver un éditeur, parce qu'après, il y a la galère, l'autre galère de trouver un éditeur. Donc on se dit, on fait peut-être ça, on fait des sacrifices sur nos loisirs, sur notre temps, peut-être pour rien d'autre que d'avoir écrit un livre qui restera dans un tiroir, ou plutôt sur un disque dur d'ordinateur. Donc il faut à un moment se dire, je m'y lance, je prends mes week-ends, je prends mes soirées, moi, il m'a fallu 25 ans pour passer du rêve au moment de me lancer, quand même.
Moi, j'écrivais tout le temps. J'écrivais en cours, j'écrivais pendant les cours. J'écrivais, oui, mon vieux prof de maths, il comprenait pas pourquoi j'avais 0 tout le temps pointé en maths, hein, alors que je passais mon temps à gratter les feuilles au fond de la salle, quoi. Jusqu'au jour, au bout de 6 mois, il a fini par voir que c'était pas vraiment des maths que
J'avais des très bonnes notes en maths.
Et voilà.
Mais en français, j'étais pas terrible.
Ah, moi en français, si ça allait. Enfin, ça dépendait. Soit mes profs adoraient ce que je faisais, donc j'avais 18. Soit il y en avait une, elle trouvait que c'était trop long. À chaque fois, elle me mettait inutile, fric, inutile, fric. Je rendais des trucs de 10 pages. C'était une horreur. C'était une horreur, cette femme.
Ah, même
elle est justement parmi nous.
Non, non, elle a pris sa retraite depuis longtemps.
Moi, je rendais une demi-feuille et je galérais. En fait, déjà, quoi.
Et avant d'être publié, mon premier livre a été publié quand j'avais 30 ans. J'avais écrit quand même une vingtaine de bouquins avant, quand même. Ah oui, mais j'en avais écrit Le Dernier Hiver qui a été publié chez Hachette, la première mouture, je l'avais écrit à 17 ans. En fait, et je l'ai, à un moment donné, quelqu'un m'a dit, mais tu avais ce livre que tu avais écrit à 17 ans, il était bien. Je dis, ah oui, c'est vrai, ouais, il était pas mal, tu devrais le. Et donc j'ai été reprendre le livre, je l'ai réécrit entièrement, mais il est sorti il y a 3 ou 4 ans.
Moi, Projet Harmonie, ça se passe dans les années 90, parce que j'ai commencé de l'écrire en 92, je l'ai fini en 2000, mais c'était mon journal intime, plus ou moins. Quoi. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de moi. Et après, j'ai resserré à fond l'histoire, mais bien plus tard, quand mon premier roman est sorti, je me suis dit que ça serait bien d'enchaîner. Quoi. Et j'ai pas d'idée. Moi, j'ai pas d'idée. J'écris super lentement. Donc c'est pour ça, en guitare, je touche ma bille. Hein.
Alors en guitare, moi, je sais même pas toucher une guitare.
Et je me demande pourquoi
partout,
j'écris des livres. Non, mais c'est une souffrance. Je prends pas de plaisir.
Vous vendez pas vraiment votre livre là.
Ah non non, le résultat est magnifique, mais c'est beaucoup de sueur.
Mais c'est de la sueur. Mais tu sais, il y a Céline qui disait quand on, il y avait une interview de Céline où il expliquait, les gens expliquaient, bien, ouais mais vous c'est facile. Il dit mais c'est facile, je t'en foutrais, moi c'est facile. Mais pour un livre de 500 pages, j'en ai écrit je sais pas combien. Il dit en fait, mais voilà, justement ce que je disais, c'est que le lecteur, quand on ouvre un livre, c'est ce qu'il disait, c'est comme une croisière. C'est comme un voyage, on rentre dans un bateau, on a la croisière. Et les gens qui sont dans la croisière, ils n'ont pas envie de savoir les types qui suent dans la cale en train de faire fonctionner le bateau ou qui vont faire comment ça arrive. Voilà. Quand on prend le bateau, on va s'émerveiller, on va faire un beau voyage. Voilà. Après ça, la logistique qui est en dessous, tout ce qui est, tout le boulot qui est en dessous, justement ce que je disais, si on a bien fait notre travail, il doit être invisible. Voilà.
C'est pas contradictoire, hein, le fait de la sueur et du plaisir. Au contraire, c'est plutôt lié. Hein. C'est comme, je sais pas, moi, quand je fais un tennis, quand je termine avec des crampes, je suis content. C'est que voilà, c'est lié. Plus c'est difficile, plus on est content d'avoir
aimé. Tu as aimé jouer au tennis.
Ouais, ouais.
Alors que moi, j'ai aimé finir.
Ouais. Ouais, c'est long à finir. Hein.
Et
mais quel bonheur.
C'est une fois tous les deux ans.
Mais quel bonheur.
C'est un bonheur tous les deux ans.
C'est un peu comme un accouchement, quoi, en fait. De toute façon, on compare souvent l'écriture d'un livre à un accouchement. C'est pareil, il y a le baby blues après, tu sais.
Mais le travail qui durerait 2 ans, quoi.
Un accouchement de 10 ans. Pire que les éléphants.
Oh là là. Non, mais je ne parle pas de la gestation. Non,
du travail.
Le travail.
2 ans de travail, quoi.
Ah ben, ouais, voilà.
Donc, est-ce qu'il est vraiment possible qu'on vous voit l'an prochain?
Ah oui, parce que...
une fois qu'on est lancé...
Bizarrement, le troisième est sur le point d'être fini. Et il va être encore plus long. J'y ai passé 3 ans.
Le métier rentre.
Ben non, parce que moi j'ai cru que plus ça allait être facile.
Non, c'est pas vrai ça.
Et non, c'est pas vrai, non. Je m'en rends compte.
Non, il y a des fois où c'est très facile, il y a des moments où ça l'est beaucoup moins, il y a des moments où, je sais pas, on a... Voilà. Bon, il faut...
Il faut avoir envie. Hein. Pour écrire, il faut avoir envie. Le jour où on n'a pas envie...
Les gens me demandent, vous avez l'inspiration tous les jours. Je leur dis, mais attendez, si j'attendais le jour où j'ai l'inspiration, mais j'écrirai jamais.
C'est ton boulot unique aussi.
Mais il faut bosser tous les jours. Quelque part, il faut même écrire quelques lignes, ça suffit. Mais il faut... Au moins que l'instrument, c'est un peu comme si on arrête de faire quelque chose, ça on l'a, c'est que si on arrête de bosser pendant très longtemps, pour s'y remettre, c'est d'autant plus dur. Quand on est dans un rythme de travail, finalement, donc moi, c'était King qui disait, je crois qu'il disait, tu parlais de King tout à l'heure, dans l'écriture d'un métier, il disait, il faut écrire tous les jours. Même si on écrit de la merde et qu'il faut tout jeter, enfin, je suis désolé pour le mot, mais c'est lui qui le dit comme ça.
J'écris tous les jours.
Voilà, c'est ça. Mais...
Alors,
j'écris tous les jours pendant 3 ans et je prends pas de plaisir. Mais je le fais, c'est ma mission sacrée. Quoi. Je sais pas pourquoi. Je sais pas.
Alors que moi, je suis capable de pas écrire pendant 3 mois. Hein. Déjà parce que j'ai pas le temps ou parce que j'en ai pas envie. Et quand j'ai pas envie, j'écris pas.
Moi, j'écris tout le temps.
Donc j'attends de prendre du plaisir ou tout à fait quand
j'écris tout le temps.
Ce que je disais sur un livre, moi, il y a des fois où ce que je dis souvent, il y a des moments où ça glisse tout seul. On a l'impression, ça va être génial. Ça vient tout seul, ça va être génial. Et alors, ou des fois, par contre, on en sue, on dit, oh, ça va être laborieux, ça va être pénible. Et en fait, les gens viennent, et là où on en a su, ils disent, ah là, c'est vachement bien. Et là où on croyait que ça sortait tout seul et que c'était génial, ils disent, ouais, finalement. Donc en fait, ça veut pas forcément dire qu'à un moment donné, voilà, quand ça avance tout seul, c'est pas forcément bon. Et quand vraiment c'est pénible, eh ben, ça sera pas forcément mauvais à la sortie. Donc,
c'est encourageant. Voilà. Ça m'encourage beaucoup.
Est-ce qu'il y a une dernière question? On vous en prie.
Heureusement, heureusement que tu es là. Hein.
C'est affreux. C'est ça, c'est affreux. C'est ça, c'est envoyé des dizaines de maisons d'édition, voilà. Jusqu'à ce qu'il y en ait une qui dise oui. Donc ça peut être un an et demi, deux ans après, après avoir envoyé le manuscrit en plus. Dans le meilleur des cas, les réponses négatives arrivent dans les trois mois, et les réponses positives, quand elles viennent, des fois on vous dit, oui, bah alors attendez, je suis en train de voir, parce que tout dépend, ça peut rentrer dans notre planning, et on vous fait patienter comme ça pendant un an. Ça m'est arrivé. Donc, ou plus, oui, quand j'ai un an, oui. Ouais.
Moi, mon malheur, justement, c'est que je l'ai envoyé par mail, et j'ai eu la réponse à un seul éditeur qui l'a accepté dans le mois, quoi.
Tu sais que t'es quand même exceptionnel.
Ouais, Ah non, mais par contre, le refus aurait été rédhibitoire, quoi.
Alors souvent, souvent, moi, il y a des gens qui me demandent, ou des élèves justement lors de rencontres, qui me disent, moi, ceux qui écrivent et qui ont envie des fois d'être publiés ou de publier un roman, me disent voilà comment on fait, est-ce que voilà. Alors s'il y en a qui envoient des livres à des éditeurs, sachez que contrairement, alors moi, de mon expérience et des auteurs que j'ai rencontrés, on a tous des lettres de refus. Je crois que c'est King encore qui disait qu'il en avait une pile comme ça sur son bureau, sur une pique. Hein, il en reçoit encore de nos jours. Hein. C'est un peu, moi je dis, il faut ramer.
Harry Potter hein, aussi.
Oui, pareil, il y a 50 refus.
C'est un roman qui a eu du mal de se faire publier. Ouais,
et Ray Bradbury, pareil pour Chronique Martienne, je crois qu'il avait été refusé chez 40 éditeurs ou 60 éditeurs, je crois. Donc, quelque part, moi il faut ramer. Si on aime ça, il faut ramer. C'est comme un fleuve, pour traverser le fleuve. Je ne sais pas si on arrivera de l'autre côté. Une chose dont je suis sûr, par contre, c'est que si on arrête de ramer, on n'y arrivera pas. c'est la seule vérité. Et après, si c'est bon, vous recevez un coup de fil. Si c'est pas bon, vous recevez une lettre. Généralement, c'est ça. Quand c'est accepté, on téléphone.
Non, moi, j'ai reçu un mail, oui.
Attends, c'est un mail. Non, moi, c'est le coup de téléphone. Moi, généralement,
quand c'est aussi, c'était un mail aussi.
Ah ouais, moi, c'est par téléphone. Généralement, quand on reçoit un courrier papier, c'est pas bon. C'est la lettre de refus type, on la connaît tous. On peut se la dire par
téléphone. Et non, on la connaît pas tous.
Ah bon? Monsieur, madame, monsieur. Non. Malgré les qualités évidentes de votre texte, il ne rentre pas dans les cadres de notre collection. Veuillez, hein, tu sais, il y a le blanc où ils ont presque mis à la main, tu sais.
Et non, je sais pas. Non, mais c'est.
Non, c'est bien.
Ça fait partie de moi. Et du coup, pour mon second roman, je l'ai envoyé au même éditeur. Il était tellement.
Il était content.
Et donc là, alors là, c'est encore pire parce que j'ai envoyé un mail en disant ça y est, j'ai fini le deuxième. Tu veux que je te l'envoie? Il me dit oui. Il sort en mai. Avant de le lire.
Ah c'est bien. Fais confiance, c'est bien.
Donc il a fait bon. Donc je ne prenais pas compte de mon expérience. Non, alors
moi de mon expérience, à moi envoyer plutôt partir groupé à plusieurs éditeurs parce que comme disait le collègue, il y en a ils mettent plus d'un an à vous répondre. Donc si vous attendez après eux, vous pouvez attendre longtemps. Donc il vaut mieux envoyer à plusieurs et puis quitte après ça s'il y en a deux ou trois qui vous répondent en même temps, vous choisissez celui qui vous préférez.
J'ai choisi entre deux quand même. Sur les quinzaines que j'ai envoyées, j'ai eu des réponses positives, j'ai choisi entre deux. J'ai fait le bon choix parce que l'autre maison d'édition a déposé le bilan depuis. Donc.
Oui donc.
Alors pour finir, donc je vous recommande de ne pas rater le rendez-vous à 14h, donc ici même au Magic Mirror 1 pour la remise du prix Imaginal des lycéens, donc pour Loire de Loïc Henry. Et donc bien sûr, vous retrouvez les auteurs à la Bulle du Livre pour des discussions, des dédicaces, etc. Merci beaucoup à vous.
Et à 13h au Lavoir Théâtre, donc.
Merci.